L'été est arrivé. Et donc, avec la fin de l'été, quelque chose qui ne nous concerne pas tellement, mais vous savez que j'aime bien quand même rebondir sur l'actualité, la société qui nous entoure et quelques activités que les gens de ce monde font. Avec la fin de l'été, plutôt des beaux jours, c'est la fin des pèlerinages. Eh oui, la fin des pèlerinages. Et il y a un pèlerinage qui attire beaucoup de monde en Espagne. Saint-Jacques de Compostelle. Et pourquoi est-ce que je vais vous parler de Saint-Jacques de Compostelle? Alors, c'est pas du tout Saint-Jacques de Compostelle. Alors, pour la petite anecdote, qu'est-ce que les gens vont faire à Saint-Jacques de Compostelle? Eh bien, dans cette ville-là, il y aurait le tombeau de qui?
De Marie.
Eh ben de Jacques, Saint-Jacques de Compostelle, de Jacques. Alors c'est un truc complètement illusoire, d'ailleurs c'est un petit peu le but aussi de ce soir, de voir la fin de la vie de Jacques. Mais voilà, il faut comprendre que cette illumination de quelqu'un a eu lieu en plein Moyen-Âge, à une époque où les gens, on leur interdisait de lire la Bible, il y avait une puissance... terrible du catholicisme sur les gens, et donc il y a quelqu'un qui a eu la révélation, qui avait soi-disant le tombeau de Pierre. Alors ils ont fouillé, ils l'ont enfin trouvé, de Job, mille excuses, et donc effectivement, de Jacob, on a dit Job, c'est ça? Voilà, j'ai tous dit sauf le bon, quoi. De toute façon, il n'y en a aucun de là-bas, donc ils auraient pu tous les faire. Et donc voilà, et donc il y a depuis, alors pendant un temps ça n'a pas du tout marché, et puis après il y a eu un regain au XXe siècle, de ce pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. Et puis en fait, il n'y a pas que ça par rapport à Jacques. C'est vrai que là, on ne colle pas vraiment à l'actualité, mais c'est un moyen quand même. C'est le 25, la fête de Jacques, c'est le 25 juillet. Mais à cette occasion-là, en fait, c'est en parlant avec quelqu'un il y a quelques jours sur le parking, il m'a rappelé ça. J'ai dit, mais tiens, en fait, ce serait l'occasion de voir la date. Moi, je pensais que de la manière dont ils m'ont parlé, je pensais que c'était la semaine dernière. Mais non, c'est le 25 juillet qu'en fait, il y a la fête de Jacques et on commémore sa mort. La mort de Jacques. Et parce qu'en fait, Jacques a une particularité par rapport aux autres apôtres. Quelle est-elle?
C'est le frère de Jésus.
Alors, c'est pas ce Jacques-là. Alors ça, c'est une petite précision qu'on peut faire maintenant. Il y a dans les évangiles plusieurs Jacques. Il y a le Jacques qu'on est en train de dire là, c'est Jacques, le frère de Jean. D'accord? Il y a un autre Jacques, Jacques de Zébédée, qui aussi faisait partie des apôtres. Et il y a un autre Jacques très important, c'est Jacques... le frère du Seigneur, donc un des frères de Jésus, qui ne faisait pas partie du tout des apôtres, parce que pendant toute la vie de Jésus, au contraire, les frères n'ont jamais compris le mystère de Jésus. Mais on le voit après à la Pentecôte. Et ce Jacques-là, ce Jacques devient le frère du Seigneur, sera le représentant de la communauté de Jérusalem. Ce sera, on va dire, le pasteur principal de la communauté de Jérusalem, et on va d'ailleurs le lire un moment dans notre récit. Mais je vous ai quand même donné quelques pistes. À votre avis, quelle est la caractéristique de Jacques par rapport aux autres apôtres? Pas sur sa personne, mais sur sa fin de vie.
Il s'est fait bouger.
Alors, c'est pas une caractéristique, parce que plusieurs ont terminé leur vie avec quelques centimètres en moins. Comme la plupart, tous ceux qui ont été tués, tous les chrétiens qui ont été persécutés, l'ont été à cause. En fait, c'est le premier apôtre qu'on considère comme martyr. C'est pas le premier martyr. Le premier martyr, c'est Étienne. Mais c'est le premier apôtre qui a été exécuté en lui coupant la tête. Allez, je vous invite à lire ça en Actes, chapitre 12. On va lire quasiment tout le chapitre 12. Alors on va resituer un petit peu, on va recadrer la mort de Jacques, pourquoi est-ce qu'il est mort, et puis surtout on va continuer sur ce récit et tirer six enseignements pour stimuler notre foi. C'est au travers de cette méditation que l'on va s'exhorter à notre foi dans le Seigneur Jésus. Actes chapitre 12, Alors là, on est dans les années 44 après Jésus-Christ. Christ est mort dans les années 33. Donc là, on est presque 11 ans après. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Comprenez que derrière le mot maltraiter, c'est persécuter, hein ? Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. Donc on peut estimer vers la Pâque, donc entre mars-avril, voilà, dans cette période. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune. 7 personnes pour une personne. Hein, 7 soldats, pas mal, hein. Avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières. La nuit qui précéda le jour. Lisez bien, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître. Comprenez que la logique d'Hérode, comme en décapitant Jacques, ça n'avait plus aux Juifs, il s'était dit en décapitant Pierre, je vais encore me faire des copains. Donc la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit « Ceint ta ceinture et tes sandales !» Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Mais je vois maintenant, d'une manière certaine, que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, celui qui est surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule, et une servante, qui nommée Rode, s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte, et lui dire « Mais tu es folle !» Mais elle affirma, si, que la chose était ainsi. Et elle dit, mais c'est son ange. Cependant, Pierre, lui, continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez-le à Jacques. Là, c'est le Jacques, le frère du Seigneur, qui était responsable de la communauté. Et dites-le aux autres. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Et Hérode s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et il donna l'ordre de les mener au supplice, à la torture. Ensuite, Hérode descendit en Judée à Césarée pour y séjourner. Mais lisons le verset 21. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Et le peuple s'écria, voix d'un dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné de gloire à Dieu, et il expira, rongé des vers. Amen. Pourquoi lire tout ça? Alors on va le faire étape par étape. Pourquoi est-ce qu'on a tué Jacques? Parce qu'il était apôtre? Pas spécifiquement. Nous sommes dans l'Empire romain et les Romains ont une multitude de dieux. Chaque fois qu'il conquit un pays, eh ben ils rajoutent les dieux de ce pays à tous leurs autres dieux et les gens de ce pays doivent adopter les dieux des Romains. Alors il y avait foison de dieux, à tel point que même l'empereur lui-même se prenait pour un dieu. Et Hérode, qui est juste un délégué de César, se prend aussi pour un dieu. Vous avez vu comment il parle aux gens et que même les gens disent « Mais attends, mais t'as pas le droit de parler comme ça, tu te prends pour qui ?» Et cet homme et toute cette légion et tout cet esprit romain, mais surtout ses autorités, voulaient absolument que les gens leur soient soumis et les considèrent comme des dieux. Il fallait se prosterner devant les Césars, les Hérodes. Mais les chrétiens de l'époque, qui ne reconnaissent que Dieu, un seul Dieu unique et véritable, tout puissant, ne se prosternait ni devant les statues, ni devant les hommes. Alors il y avait des menaces de mort. C'était vrai pour tous les chrétiens, et c'était vrai également pour les apôtres, évidemment. Si actuellement, je sais qu'il y a un film qui est sorti, c'est la réactualisation du film Ben-Hur. Mais c'est complètement ce contexte-là. Les gens gladiateurs, et puis dans ce film, il y a un chrétien, justement. Parce qu'il refuse de se prosterner en signe de divinité de tous ces faux dieux et notamment de ces puissances militaires. Alors, effectivement, Jacques, comme tous les autres, est pris et comme il refuse de reconnaître César ou Hérode comme dieu, alors il est mis à mort. C'est quand même incroyable quand même de réaliser qu'aujourd'hui, une multitude de gens qui se disent chrétiens se prosternent encore devant les statues. Alors que les premiers chrétiens, eux, étaient mis à mort parce qu'ils refusaient de le faire. C'est quand même étonnant de voir qu'il y a des milliers de gens qui se revendiquent de Christ et qui sont encore capables de se prosterner devant un autre nom que le nom de Christ. Encore, il y a deux jours, monsieur m'interpelle, on discute, et puis oh, je suis chrétien. Je dis, oh, Guillaume, vous êtes très engagé dans... Mais vous croyez vraiment? Oh, oui, moi je suis chrétien catholique. Ah, je dis, vous êtes chrétien ou vous êtes catholique alors? C'est pareil. Je dis, non, parce que les chrétiens, ils écoutent Christ et les catholiques, ils écoutent le pape. Mais si, c'est pareil. Je dis, non, soit vous ne comprenez pas le message de Christ, soit vous ne comprenez pas le message de votre pape, mais c'est pas pareil. Alors, il a un peu détourné de la conversation et je n'ai pas voulu forcer ce brave homme à comprendre plus, tout en lui donnant mon numéro de téléphone quand même. Mais il faut comprendre quand même qu'il y a un antagonisme dans cette société où des gens se disent à la fois chrétiens, mais acceptent de faire des choses pour lesquelles les premiers chrétiens, eux, étaient prêts à donner leur vie. Vous avez vu dans l'histoire, Hérode a l'impression de faire un super coup. Pour lui, il tuait juste un chrétien parmi les autres. Mais quand il a vu que les Juifs se frottaient les mains, alors là, il s'est dit, oh, mais c'est super. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les Romains qui étaient dans cette région, ils avaient rencontré effectivement des Juifs. Et les Juifs, eux aussi, ne se prosternent pas devant les Césars. Eux aussi ne se prosternent pas devant les dieux des Romains. Mais les Juifs, eux, sont déjà installés depuis longtemps. Alors, difficile de tuer tous les Juifs. Mais il y a toujours une animosité, une sorte de rivalité, de contestation entre le peuple juif et les Romains. Il n'y a jamais eu une bonne entente. Et là, pour la première fois, voilà que Hérode, en coupant la tête d'un chrétien que les juifs eux-mêmes considèrent comme des parias, des hérétiques, des gens désilluminés qui suivent un homme blasphémateur, parce que pour les juifs, un chrétien, c'est un homme qui suit un homme qui se prend pour Dieu. Donc c'est la pire des insultes que l'on puisse faire à Dieu. Alors les juifs, eux aussi, ils étaient très contents de voir un de ces apôtres avoir la tête en moins. Et voilà que Hérode se dit, mais voilà un bon plan. Si je liquide les apôtres, si je liquide les chrétiens, les juifs, eux, sont contents et ils vont devenir mes amis. Je vais avoir plus de votes à la prochaine élection. Comprenez le clin d'œil. Alors qu'est-ce qu'il se dit dans son élan? Je vais aussi arrêter Pierre. Mais une chose à laquelle nous devons nous aussi prendre conscience, c'est que toucher à l'Église, c'est toucher à Christ lui-même. Lorsque Paul persécutait l'Église et qu'il a été arrêté en plein chemin, la première question qu'il a dit, mais qui es-tu ? Qui es-tu ? Il est là sur son cheval, il tombe à la renverse, il est comme ébloui par cette lumière qu'il réalise divine. Mais il dit, mais tu es qui? Quelle est cette puissance? Et cette voix lui répond, je suis Jésus que tu persécutes. Paul n'a jamais persécuté Jésus en personne, mais Paul persécutait l'Église. Et Dieu va se manifester à lui en disant, je suis Jésus que tu persécutes. Comprenons et réalisons que l'Église est le corps de Christ. Nous avons de la valeur. Quiconque touche à l'Église touche à Dieu lui-même. Et ce Hérode-là, celui qui a été le premier à toucher à la colonne de l'Église, parce que les apôtres sont les piliers de l'Église, ils sont les colonnes, ils sont les fondations. Non pas qu'il y a de favoritisme dans l'Église de Jésus-Christ, mais il y a des hommes qui ont été établis, qui ont de la responsabilité, qui ont été placés par Dieu lui-même. Voyez de quelle mort il meurt, Hérode, la même année où lui, il a cru faire un bon coup en tuant Jacques et en croyant tuer Pierre. Voilà que cet homme mourra de la manière la plus horrible, en pleine scène publique. On ne touche pas à l'Église de Jésus-Christ impunément. Il a payé de sa chair, il a payé cher de sa personne pour le comprendre. Mais continuons maintenant et à voir ce qui se passe. Alors il arrête Pierre. Et Pierre, comme si c'était le pire des dealers de la planète, comme si c'était Al Capone en personne qui l'avait chopé, voilà qu'il met 4 soldats, 4 troupes, avec des troupes devant, des troupes derrière, comme si Pierre allait devenir le pire des criminels. Remarquons, alors nous connaissons la suite, hein, l'ange le libéra, il sortira, il ira voir ses congénères, et après il se mettra à l'abri. Mais retenons 6 points de cette histoire. Le premier point, Dieu permet. Dieu permet. On pourrait être étonné quand même. Toucher à l'Église, c'est toucher à Dieu. Et pourtant, Dieu a permis que Jacques meure. Comme on l'a dit, ce n'est pas le premier martyr. Il y a eu Étienne avant lui. Il y a certainement encore eu beaucoup d'autres personnes, de ces illustres inconnus, comme je dirais, qui sont morts à cause du nom de Jésus-Christ. Dieu permet. Dieu permet d'entendre quelques drames. Et il faut accepter que nous ne comprenions pas tout. En Deutéronome, chapitre 29, verset 29, il est écrit « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous. » Il y aura toujours. Et là, je veux sortir du contexte juste de l'histoire, là, de Pierre, de Jacques, d'Hérode. Mais dans nos propres vies, il peut y avoir des situations qui nous dépassent. Des situations où je dis, mais pourquoi? Pourquoi tu permets? Pourquoi tu as permis l'exécution de Jacques? Et à ce moment-là de l'histoire, on peut même se dire, mais pourquoi est-ce que tu permets aussi que Pierre aille bientôt passer à la casserole? À Dieu sont les choses cachées. Ce qui est certain, et ce que nous devons serrer dans notre cœur, c'est que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous ne connaissons pas la finalité des choses, mais Dieu dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et entre les deux, il y a un parcours. Entre le commencement et la fin, il y a un cheminement. Ce qui importe, c'est la finalité. Ce qui importe, c'est le but. Quel que soit le démarrage, quel que soit le chemin, ce qui importe, c'est que nous demeurions dans la foi pour qu'à la fin, Dieu soit glorifié. C'est Paul qui dira « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. » Jésus le dira, qu'il vaut mieux entrer dans le paradis avec un membre en moins que d'aller de tout son corps en enfer. Il y a des situations où il y aura le sacrifice de notre personne. Il faudra peut-être renoncer à des rêves. Il faudra peut-être accepter des situations avec lesquelles on n'est pas du tout en harmonie. Peut-être qu'on devra toute notre vie supporter quelque chose pour lequel nous intercédons, pour lequel nous savons que Dieu peut intervenir. Mais Dieu permettra peut-être que cette chose demeure. L'essentiel, c'est que nous demeurions dans la foi. C'est que nous tenions jusqu'à la foi, jusqu'à la fin, dans la fidélité, dans la grâce de Dieu. Et le deuxième point, c'est que Dieu n'agit pas avec tout le monde de la même manière. Nous, on connaît la suite, alors on sait que Pierre va être délivré. Alors on aurait pu se dire, mais pourquoi t'as pas fait la même chose avec Jacques? Il y a du favoritisme. Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi moi et pas lui? Pourquoi avec elle ça se passe comme ça et qu'avec lui ça se passe comme ça et qu'avec moi ça se passe autrement? Oh, je crois qu'on a tous eu ce genre de raisonnement au moins une fois dans notre vie. Oui, Seigneur, eux tu les exauces, c'est pas moi. Et dites-vous que les autres disent la même chose pour vous. Dieu n'agit jamais de la même manière. Déjà dans notre propre vie, mais Dieu n'agit jamais de la même manière avec chacun. Dieu a sa pédagogie, Dieu a son histoire, Dieu nous trace un chemin à chacun, Dieu façonne les cœurs à chacun, chacun son histoire, chacun sa route, comme dit cette chanson. Et Dieu traite chaque situation de manière individuelle et personnelle. Ne nous comparons jamais. Ne cherchons jamais à nous établir, à nous comparer, à faire un copier-coller, à se dire « Ah bah, la sœur, elle a fait comme ça, alors moi je vais faire comme ça. Ça va marcher pour moi parce que ça a marché, parce que mon frère m'a dit que pour lui, c'est comme ça qu'il a fait. » Mais ça, ce n'est pas... Il n'y a pas de tambouille avec le Seigneur. Il n'y a pas de recette. Dieu nous traite chacun individuellement. Dieu connaît les limites de chacun. Dieu connaît l'objectif de chacun, n'est-ce pas? On vient juste de le dire avant. Dieu permet des choses. On se réjouit quand un frère dit « Oh, génial, le Seigneur m'a guéri !» Mais ceux qui sont malades à côté, qu'est-ce qu'ils se disent en même temps? Mais pourquoi pas moi, Seigneur? Ton temps viendra. Ton temps ne viendra pas. Mais l'essentiel, c'est de demeurer dans la foi. Et de dire « Seigneur, fais ce que tu veux avec moi. Et fais de moi ce que tu veux. » Le troisième point, c'est que l'Église priait pour Pierre. Eh oui. Imaginez que ce soir, les gens viennent, prennent quelqu'un au milieu de nous, les chantent à l'oiseau, on la sacrifie. Il va y avoir de l'inquiétude. On va prier pour elle. Puis voilà qu'on apprend que elle est égouillée. Et le vendredi d'après, les mêmes gens débarquent et voilà qu'ils mettent la main sur Élie ou sur David. Mais on sera traumatisé. On ne sera pas encore consolé de la peine d'avoir perdu notre sœur, que déjà on se prépare à perdre nos bien-aimés. Mais en même temps, on prie, Seigneur, tu peux faire quelque chose, tu peux faire quelque chose. Et voilà qu'il nous est dit que là, dans cette cellule de prière où l'église était réunie, un grand nombre de personnes, ils intercédaient, on peut comprendre l'angoisse, on peut comprendre leurs pleurs, on peut comprendre leur appréhension, et nous, il nous est difficile de l'imaginer, mais ils doivent se cacher pour prier, ces chrétiens-là. Ils sont persécutés, si on les trouve, ils peuvent tous aller au même cachot, ils peuvent tous se retrouver avec les chaînes, ils peuvent tous se retrouver avec une tête en moins, et chacun craint pour sa famille, chacun craint pour sa vie. Et l'Église prie. Et ils font bien de prier. Parce que ça, c'est la formule du chrétien. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Qu'il est important, mes bien-aimés, de prendre le temps de prier quand l'angoisse vient, quand le combat vient, quand l'inquiétude vient, quand les soucis viennent. Pas la peine de rester là, stoïque, devant notre café. Pas la peine là, de regarder, de faire des tours, de chercher des solutions. Cherchons la face de Dieu. À genoux, avec les frères, avec les sœurs. Seigneur, viens à mon secours. Délivre-moi. Soulage mon cœur, soulage mon âme. Je veux décharger ce fardeau. Mais il faut chercher la face de Dieu. Lorsque les soucis viennent, lorsque l'inquiétude vient, lorsqu'on a l'impression que la mort est là. Il n'y a pas que la mort physique, il y a la mort spirituelle. Alors il faut chercher la face de Dieu. Il y a une grâce de Dieu. En 1 Pierre chapitre 5 verset 7, c'est rigolo, c'est comme si Pierre, c'est Pierre qui dit ça. Mais qu'est-ce qu'il dit Pierre ? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin. Amen. Il faut se décharger. Il faut se décharger sur Jésus. Et effectivement, voilà quelqu'un qui sait mettre la parole en pratique. Parce que pendant que toute l'Église prie, notre quatrième point nous montre que lui, il dort. Il dort. Voilà que toute l'Église prie, elle s'angoisse pour lui, elle intercède pour lui, elle s'attend au miracle, elle réclame l'intervention du Seigneur. Et lui là, prier,
ouais, je dors.
Vous imaginez votre pasteur à la réunion de prière, et là il se met et il dort. Ouais, prier, hein, prier pour les frères, prier pour les sœurs, moi je dors. Je vais vous motiver, hein. Non seulement il dort, mais quand même, il est à la veille de son exécution. Lui, il a une famille, hein. Vous savez, il a une femme, donc il a sûrement des enfants. Il est engagé dans l'œuvre de Dieu. Dieu lui a confié des choses importantes. Il sait que là, dans quelques heures, il va devoir se réveiller, il sera devant un faux tribunal, un faux jugement. On va le condamner à mort juste pour plaire aux juifs. Il sait très bien que dans cette histoire, il n'est qu'un instrument, qu'un jouet. Il dort. Il dort. Mais bien aimé, ce n'est pas un aveu de faiblesse, ce n'est pas de la résignation. Mais la Bible nous parle de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Philippiens chapitre 4, verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà un homme qui ne se contente pas de prêcher, mais qui vit ce qu'il prêche. Il sait qu'il va mourir. Mais lui, comme tous les autres chrétiens, et comme ce qu'a pu dire Paul, vivre ou mourir, mais la mort m'est un gain. Pourquoi s'inquiéter? Ok, mais si je meurs, ben je meurs. Il y a de temps en temps des pensées étonnantes, des conversations étonnantes de certains chrétiens qui appréhendent la mort, qui s'inquiètent de la mort. Mais pourquoi s'inquiéter? N'y a-t-il pas un souci? N'y a-t-il pas là un accusateur qui fait trop bien son travail? Il n'y a point à nous inquiéter de la mort. Si nous avons confessé nos péchés, si nous vivons en cherchant à plaire à Dieu, si nous sommes attachés à la vérité, si nous vivons chaque jour dans une communion avec le Seigneur, si le Seigneur vit en nous et que nous efforçons de conserver cette communion avec le Seigneur, mais la mort, c'est génial! J'aime ma femme, j'aime mes enfants, je vous aime. Mais si on me propose d'aller au ciel, mille s'il excuse, mais je pars sans vous. Je me dépêche de rentrer à la maison céleste. Car la présence de Dieu, pour nous, mais c'est le plus bel endroit. C'est là qu'il y a la grâce, c'est là qu'il y a le bonheur, c'est là qu'il y a la félicité. C'est là qu'enfin nous verrons Dieu face à face. Plus ce combat dans la chair. La vraie délivrance, quoi. Faisons attention de ne point nous laisser voler la paix de Dieu par les soucis et des faux raisonnements humains. Nous n'avons pas à craindre la mort. Nous n'avons pas à craindre la mort pour nous-mêmes. Et pardonnez-moi, nous n'avons pas à craindre la mort pour nos bien-aimés qui sont dans la foi. Nous ne sommes pas appelés à prier pour qu'ils meurent. Mais nous ne nous cramponnons pas à la vie terrestre alors que l'on sait que la personne a déjà la vie éternelle. Ne soyons pas de ces gens qui vivent seulement pour des choses terrestres. Qui plus est, apprenons à nous reposer dans le Seigneur. Ce n'est pas non plus un motif de spiritualité que de vouloir paraître en travail, en énergie, en stress, en fardeau. Non, il n'y a rien de spirituel, vous savez, à vouloir paraître comme quelqu'un qui porte sur lui, c'est faux. La Bible nous dit au contraire qu'il faut se décharger. Donc apprenons à nous décharger. Un vrai homme, une vraie femme spirituelle, ce n'est pas quelqu'un qui est en travail. Mais c'est quelqu'un qui apprend à déposer son travail au Seigneur. Oui, il porte dans son cœur une charge. Mais il apprend à décharger la charge sur le Seigneur. Il nous est même dit au psaume 127, verset 2, « En vain vous vous levez tôt le matin, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. » L'Éternel en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Non pas que Pierre, dans cette situation, baissait les bras et lui dit « c'est comme ça », mais il sait très bien à quoi ça sert. Il a confié sa vie au Seigneur. « Seigneur, que je meure ou que je vive, Seigneur, que ta volonté se fasse. » Le cinquième point, c'est l'étonnante intervention de Dieu. Dieu intervient là où il n'y a plus d'espoir. Et plusieurs d'entre nous avons pu expérimenter, à l'exemple de Pierre, que Dieu de temps en temps intervient au moment in extremis. Comme pour nous montrer... Ça ne sert à rien de t'être angoissé pendant des mois. Ça ne sert à rien de t'inquiéter pendant des semaines. Ça ne sert à rien toutes tes nuits blanches. Parce que moi, la solution, je te l'apporte la veille où tu dois faire quelque chose. Et combien nous nous reconnaissons dans ces situations-là. Et là, quand on voit ça, on se dit, mais il a bien fait de dormir, Pierre. Il a bien fait de dormir, au moins. Dieu est un Dieu providentiel. Dieu est un Dieu qui, de temps en temps, va éprouver notre foi jusqu'au bout. Dieu connaît nos limites. Et de temps en temps, nous sous-estimons nos limites. Mais Dieu les connaît. Non seulement il les connaît, mais il prend plaisir à nous pousser à aller un peu plus loin. C'est comme le sport. Plus on va courir et plus on courra davantage. Et c'est parce qu'à chaque fois on ira un petit peu plus, un petit peu plus loin, chaque fois qu'on aura l'impression que non, j'en peux plus, allez encore un petit peu, et ben après on court de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et on s'aperçoit des mois après les progrès que nous avons faits. La vie avec Dieu, c'est une vie de pédagogie. Et bien des fois, le Seigneur nous mettra dans des situations où j'ai l'impression, mais on fait comment ? Eh ben non, on fait comment, Seigneur ? Mais c'est pas possible ! Mais Seigneur, comment ça va être demain ? C'est... Frère, ma sœur, tu appartiens à un Dieu providentiel. Un Dieu qui est capable d'ouvrir une porte là où tu vois un mur complètement fermé. Un Dieu qui est capable de briser des liens. Car nous avons un Dieu qui est libérateur. Comment imaginer un seul instant ce Pierre-là, ferraillé aux pieds, ferraillé aux mains, des soldats à côté de lui, des soldats devant lui, des soldats aux portes, des portes en fer. Et l'Église prie, Seigneur, fais quelque chose, je ne sais pas quoi ce que te demander, mais fais quelque chose. L'Éternel est capable d'apporter de la lumière là où il y a les ténèbres. Parce qu'il est dans un cachot sombre. Le Seigneur envoie la lumière. Amen. Oui, mais il y a les chaînes. Le Seigneur brise les chaînes. Oui, mais il y a les soldats, ils vont se réveiller. Le Seigneur les maintient enfermés. Oui, mais la porte est fermée. Le Seigneur les ouvre. Oui, mais comment je vais aller après dehors? Le Seigneur t'accompagne. Et reconnaissons que de temps en temps devant Dieu, nous ne faisons que présenter des oppositions. Oui, mais, oui, mais, oui, mais. Seigneur, pardonne à nous. Le jour où le peuple hébreu est sorti d'Égypte, conduit par la nuée, il se retrouve devant la mer. Et là, derrière eux, l'armée de Pharaon. Et là, le peuple se lamente. Comment on va mourir? Vous savez ce que dit Dieu? Taisez-vous et marchez. Oh, bon, c'est pas très fraternel, ça. Oui, mais il y a des fois... Il faut apprendre à se taire. Il faut apprendre à arrêter avec nos mets, avec nos cris, avec nos pleurs. La foi s'alimente de la joie. La foi s'alimente de l'espérance. Et la foi précède le miracle. De temps en temps, nous tuons la foi avec nos mets, avec nos considérations. Oui, mais il y a des chaînes. Oui, mais des soldats. Oui, mais c'est la nuit. Oui, mais je suis perdu. Oui, mais il y a la porte. Oui. Oh, mon frère, ma sœur. Oui, mais Dieu est Dieu. Et rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Alors si tout est possible à celui qui croit, et qu'il croit en celui en qui rien n'est impossible, alors, quelle que soit la situation, le Seigneur interviendra. Amen. Il y a d'étonnantes interventions de Dieu. Dieu peut... trouve son moyen tel qu'il le veut. Il y a une autre histoire comme ça d'un gars qui est en prison, Paul, avec son copain Silas. Alors, il dormait pas, il chantait des cantiques. Oh, ils étaient un peu fous aussi, mais bon. Ils étaient aussi en prison. Ils avaient aussi des soldats, ils avaient aussi des portes. Et là, le Seigneur, avec eux, a choisi un autre moyen. Il a fait un tremblement de terre. Vous vous rappelez quand on disait chacun sa route, chacun son chemin, chacun ses expériences. Quelle que soit notre situation, le Seigneur nous délivrera d'une manière ou d'une autre. Rapidement ou de manière prolongée. Le Seigneur aurait pu délivrer Pierre avant. Il a décidé de le libérer juste la veille. Pourquoi? Mais il n'y a pas de pourquoi poser. Dieu fait ce qu'il veut. Demeurons dans la foi. Certains seront guéris de manière miraculeuse à la première réunion. Alléluia! D'autres seront guéris miraculeusement. Peut-être des dizaines d'années après. J'ai connu le témoignage comme ça d'un gars, il était handicapé. Il aimait le Seigneur de tout son cœur. Et plus d'une fois, il avait dit, Seigneur, aide-moi, secours-moi, délivre-moi, tu es capable. Puis, bien sûr, vivant dans sa souffrance, il priait régulièrement comme ça. Puis à un moment, il a oublié de prier comme ça. Et là, il a été guéri. Chez lui, un matin, il se réveille. Oh, alléluia! Le Seigneur m'a guéri! Pas à l'église, pas d'imposition de main, pas de prière, pas de chaîne de prière internationale. Le Seigneur est intervenu. De temps en temps, le miracle de Dieu ne se fait pas dans le corps. Et certains, il n'y aura que la mort qui les délivrera. Mais l'essentiel, c'est qu'il y ait l'œuvre de Dieu qui se fasse. Une jeune fille que je rencontre dans une église, qui elle a grandi avec une maman qui était au Seigneur. Bon, ben, je te dis à la prière.
Faille bien la porte, s'il te plaît. Merci beaucoup. Et une dame, cette jeune fille qui vient me voir et qui dit, mais moi j'ai grandi, oui, ma maman elle était chrétienne et tout, mais en fait je l'ai jamais vue aussi bien depuis qu'elle est malade. Et en fait la maladie de sa maman a suscité un réveil spirituel dans le cœur de cette maman. Et cette jeune femme, qui avait à l'époque une vingtaine d'années, était témoin que malgré que sa maman soit physiquement dans le pire état de sa vie, elle voyait que spirituellement, intérieurement, elle était régénérée, qu'elle avait une joie qu'elle n'avait jamais vue chez sa maman. Laissons faire le Seigneur. Laissons faire le Seigneur. Dieu intervient comme il veut, quand il veut, mais il intervient toujours. Et si humainement nous ne voyons pas le miracle, c'est qu'il le fait autrement. Amen. Le dernier point à relever de cette histoire, c'est le caractère humain dans le surnaturel. C'est quand même pas commun, ce genre d'expérience où les chaînes se délient, où un ange intervient, il nous parle, allez, il nous dit ce qu'il y a à faire, il ouvre les portes, il nous amène dehors, et puis il disparaît. À tel point que même Pierre, il savait plus trop si c'était un rêve, si c'est une fiction, une réalité. Il dit, mais je suis où là? Et puis, soudainement, on revient dans une normalité et on se retrouve là. Il est là dans la rue et il dit, bon, qu'est-ce que je fais? Il nous avait dit, après avoir réfléchi, être chrétien, ce n'est pas s'abstenir de réfléchir. La foi n'empêche pas la réflexion et la réflexion n'empêche pas la foi. Dieu même nous demande de réfléchir. Dieu nous demande d'user de sagesse, d'intelligence. Ce n'est pas parce que le Seigneur est intervenu de manière surnaturelle qu'au bout d'un moment, on ne doit plus rien faire et que tout doit se faire par lui. Pas du tout. Dieu intervient. Amen. Dieu délivre. Amen. Dieu éclaire. Alléluia. Dieu est celui qui connaît les temps, les circonstances et sait placer les choses de manière à nous orienter, à intervenir. Mais entre tout ça, nous sommes appelés à vivre dans cette bonne sagesse, dans cette bonne intelligence. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il est allé faire, notre ami Pierre? Il a réfléchi. Et puis il s'est dit, ce serait bien que j'aille prévenir quand même l'église. Alors il savait où est-ce qu'il se trouvait. Il est allé, il les a prévenus. Et puis après, il est allé faire le fanfaron. Il est allé prêcher au temple? Pas du tout. Il nous a dit qu'il s'en est allé dans un autre lieu. La Bible nous dit qu'il ne faut pas tenter Dieu. Il n'y a pas de provocation à faire. On m'a raconté, je ne sais pas si tu as entendu cette histoire, qu'au Gabon, un homme qui voulait se prendre presque à l'égal de Dieu, un pasteur, a dit, regardez, je vais marcher sur les eaux, regardez, alors il a harangué la foule, il paraît, il a marché sur les eaux, et puis il s'est jamais relevé le bouga, c'est ça. Hein, c'est Dieu qui doit être l'initiateur du miracle. C'est pas nous. Ne créons pas des fausses circonstances, des fausses ambiances. Nous devons être juste un instrument entre les mains de Dieu. Et Pierre, lui, n'a pas vu là une occasion d'être surprotégé. Il ne s'est pas dit, tiens, c'est moi que Dieu a protégé par rapport à Jacques qui s'est fait décapiter. Non, moi j'ai l'onction tellement que même les hommes ne peuvent rien me faire, pas du tout. Il a juste réalisé que Dieu était intervenu. Il a dit, ah, le plan de Hérode, là, merci Seigneur. Les frères, je suis vivant, ok, je vais me protéger. Prévenez Jacques, le responsable de l'église, que tout va bien. Moi, je vais ailleurs. Et Dieu et Pierre réapparaîtra, bien sûr, il n'est pas parti se cacher. Mais on voit qu'il y a un équilibre parfait entre la part de Dieu et la part de l'homme. La part de l'homme et la part de Dieu. En fait, peut-être que le verset de conclusion à tout cela se trouve en Romains 8, verset 28. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Jacques, Pierre, André, Étienne, Élie, Mamie, Guy, qu'importe. Quelle que soit notre vie, notre responsabilité à nous, c'est d'aimer Dieu, de demeurer en lui, d'aimer sa présence, de lui faire confiance. Nous aurons tous nos situations d'emprisonnement. Nous aurons tous nos situations où on a l'impression d'être liés, assis, cloués à terre, retenus par les hommes, enfermés devant, enfermés derrière, pris dans cette noirceur où on n'y voit plus rien. Nous aurons tous nos moments. Combien de temps on va y rester? Je ne sais pas. Un jour, trois mois, trois ans? L'essentiel, c'est de réaliser que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De savoir que ce qui nous arrive là, en ce moment, c'est connu de Dieu. Et que Dieu nous délivrera. Amen. Et même si c'est à un moment in extremis, Dieu le fera. Amen.